the sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Move ya with your gun, myself you left ya with your bum. Oh yeah, move ya with your bum, myself you left ya with your gun. If you're...
Radio G. www.radio-g.fr.
This is how it starts. Several trips to the gynecologist. He was surprised to see me standing there with my golden ticket hanging out of my left pocket. As I entered the building, I saw large acrylic paintings span the ceiling, and the stale smell of silicone clung to the wall. I breathed it in, I breathed it out, I thought nothing of it then, and I think nothing of it now. I think nothing of it now. Sit in the the corner of your room, sit in the corner of your room and download the next greatest track to your MP3 device. So sincerely recommended to you by the New Musical Express. You can pick it up, plug it in, have it ready for free roaming material before you know it. Then you can stroll on round to your friend's house and play it loud and proud as you sit around in a circle and skip 1 minute and 30 seconds into the chorus, so we can all sing along to the four chord future. Cause that's what we want, that's what we need. Something we can touch, something we can feel, something that's relatable, not debatable. Relatable, not debatable. Relatable, not debatable. Relatable, not debatable. Relatable, not debatable.
Salutations.
Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio G, bienvenue dans Génération Sport, on est avec vous. Voilà, quelques problèmes techniques, mais voilà, nous sommes de retour pour être avec vous dans cette émission. Alors, l'occasion d'évoquer un peu l'actualité locale, mais de faire le point aussi sur les personnes qui sont avec moi autour de la table. Voilà, Faustin à la réalisation, comment vas-tu?
Bah bonsoir Florent, bonsoir tout le monde. Autant pour moi, la philo m'a attaqué ce matin, on va dire, c'est la fatigue.
C'est maintenant. Des choses qui peuvent arriver. Et Clément, comment vas-tu?
Salut Florian, salut à tous. Bah cette fois, je peux vraiment faire un salut Florian, un bon salut Florian. Et bah ça va très bien. Voilà, la semaine dernière, je n'ai pas pu être là dû à un match amical. Ouais. Préparation de la saison prochaine très en vue. Et puis c'est parti.
Cédric qui est avec nous aussi. Comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va très bien. De retour du petit week-end à Glasgow, hein, via la WWE.
C'est ça. Ouais. Ça t'a permis de voyager un peu en Europe.
Voilà, c'est ça. Entre le côté allemand, on a passé vite fait les frontières. Hop, on a été.
Et de retour en France, voilà. pour Génération Sport, et évoquer un peu toute l'actualité locale et nationale. On va forcément évoquer l'Euro 2024 dans quelques instants. On va parler forcément maintenant du SCO, foot, de l'UFAB aussi également. D'ailleurs, en parlant de l'UFAB, on y va tout de suite avec toi, Faustin, sur l'actualité locale et les joueuses arrivantes.
Ouais, bah d'abord les départs quand même, avec bah celui de Océane Montpierre et Julie Wojta, qui sont deux joueuses qui apportaient beaucoup à l'effectif, mais les plus gros et les plus douloureux sont ceux de Yasmine Bailey, qui était la deuxième option offensive juste derrière Leila Lacan, et aussi celle de la capitaine Kekeli Elenga, la leaduse du vestiaire. L'effectif angevin est donc vraiment détruit et l'équipe va devoir se reconstruire. C'est pour ça que le recrutement a déjà bien avancé avec l'arrivée cette semaine de Emmanuel Tahan au poste 3-4, Laura Mendes au poste 1-2, Oumu Diarissou au poste 5 et Anna Nguyen Jok au poste 2. Ce qu'on remarque dans le recrutement angevin, c'est que toutes les recrues sont hyper jeunes et on voit assez bien là ce que le club cherche à faire.
Cherche à créer un effectif jeune. On va passer maintenant du côté du SCO Foot. Avec la campagne d'abonnement qui a démarré donc hier, ce lundi 17 juin, avec les tarifs qui vont de 170€ à 810€, ça nous fait à peu près un match de L1 entre 10 et 48€ en fonction de l'abonnement que vous allez pouvoir prendre. Toujours du côté du SCO, le programme de reprise et de préparation est finalisé. Reprise le 4 juillet pour les tests physiques, le ballon ça sera pour le 8 juillet et des matchs amicaux du 17 juillet au 10 août avec notamment des adversaires comme Rennes, Lorient et Bordeaux avant une reprise le 17-18 août prochain pour la Ligue 1. Côté Mercato, Marin Nicolis quitte le SCO et va signer en Australie, reste en Australie pour signer au MacArthur FC. Et le revirement de situation, c'est Florent Hanin qui restera SCOiste la saison prochaine puisqu'il a prolongé un an avec le SCO. Le SCO, c'est aussi le SCO Handball, avec un club qui va faire plaisir à Alex, bien évidemment, avec une stat donnée par le président du club. 99% de chance de voir rester le SCO Handball en Pro League, en deuxième division, à la suite de possibles forfaits et refus d'autres équipes pour s'y engager. Le SCO Volley aussi également, qui a reçu son trophée ce week-end de vainqueur en coupe régionale, mais c'est aussi l'occasion de parler du SCO Volley puisqu'ils organisent leur tournoi traditionnel sur herbe. Le SCO Volley qui aura lieu ces samedi et dimanche prochains, les 22 et 23 juin, au stade de la Roseraie. C'est l'occasion pour vous d'aller voir un peu ce que propose le SCO Volley sur herbe. C'est toujours passionnant et spectaculaire de voir ces joueurs et joueuses se défier dans ces tournois mixtes.
Ça doit glisser un peu plus sur herbe.
Et tout dépend du temps qu'il fait. C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait actuellement, voilà, c'est un peu plus dangereux, mais quand il fait bien chaud, ça glisse un peu moins. Mais voilà, c'est donc
on peut plonger week-end plus facilement comme
et
ça.
Et voilà, c'est ça. Il y a des belles compétitions lors de ces tournois. On termine avec les performances d'Amandine Bourassier la semaine dernière lors des championnats d'Europe à Rome la semaine dernière. Malheureusement, pas de réussite pour elle et ses collègues lors du relais 4x400. Elle finit cinquième derrière les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique et l'Italie. Clément, t'as vu la course ou pas? T'as eu l'occasion
oui,
de la voir?
Oui, j'ai vu la course et Brossier a manqué. Je pense qu'elle a manqué un peu de fraîcheur. Je parle notamment sur son 400. Ouais. Et c'est elle qui a terminé le relais. Et oui, elle est partie un peu vite et puis elle a craqué dans les. Elle était dans les trois et puis après elle a craqué dans la dernière ligne droite. Ouais, elle a manqué de fraîcheur comme sur sa course individuelle. Bah, je pense que t'allais le souligner.
Ouais, j'allais le souligner forcément. Elle a pas forcément atteint la finale en plus du 400, du 400 féminin la semaine dernière aux Europes. L'objectif, de toute façon, c'est les Jeux avec le relais, notamment pour Amandine Brossier et représenter fièrement le Longjou. Hein.
Et puis elle croit toujours au minima parce que dans une interview elle a signalé que voilà elle allait tenter de faire les minima à la maison donc
la semaine prochaine
c'est ça la semaine prochaine à Angers pour les championnats de France.
Exactement, vendredi, samedi, dimanche la fête de l'athlétisme, c'est bien de l'avoir sur Angers aussi ces championnats, c'est toujours intéressant d'aller les voir. Il reste des places, il me semble, en plus c'est plutôt abordable sur 3 jours, je crois, il me semble que c'était 20 € le pass 3 jours pour suivre les championnats de France d'athlétisme à quelques semaines, quelques jours de l'ouverture des jeux. Donc on sera à moins d'un mois à peu près. Donc c'est toujours à voir. En plus, avec les performances aux Europes, je pense que l'athlétisme pourra faire le plein.
Ça a été mieux que aux championnats du monde.
Exactement. Que prévu. On va passer à l'actualité chaude, les garçons. C'est ce match donc Autriche-France. Hier, l'ouverture de la compétition, en fait, pour les Bleus, hein, l'entrée en lice. Une victoire, donc 1-0 sur ce CSC de Vauber, le défenseur du Borussia Mönchengladbach. Dans le même temps, enfin dimanche, les Pays-Bas ont eux battu la Pologne 2-1. C'est la rencontre du groupe, hein, l'autre rencontre du groupe. Mais le principal événement, c'est aussi la blessure de Mbappé et cette fracture du nez. On va évoquer tout ça ensemble, les garçons. Alors dans un premier temps, qu'avez-vous pensé de ce match des Français, Clément?
Je suis un peu mitigé. Je suis content parce qu'on a gagné et c'est le principal. Mais oui, il va falloir hausser le niveau de jeu parce que ça a vraiment pas été foufou. Et je pense que ça a été aussi la volonté des Français de maîtriser le match et de pas non plus hausser son niveau de jeu. Et donc, je pense que le match référence, ça va vraiment être contre les Pays-Bas vendredi. Et là, on va vraiment voir si on a une équipe de France qui est capable d'aller loin dans cette compétition.
Cédric, ce match hier face à l'Autriche, qu'en as-tu pensé?
C'est du déchandre. On est habitué, mais non, je trouve ça dommage. On a quand même eu du mal à... Alors, on a été dominant, mais on a eu du mal à le mettre, ce premier but. Hein. Mmh. Au final, c'est même pas un joueur français qui le marque. Mais à 1-0... On doit être tué derrière le match au moins plusieurs fois. Hein. Si ça finit à 3-0, j'aurais pas été surpris vu le nombre d'occasions qu'on a vendangé. Je disais oui, du Deschamps. Moi, je comprends toujours pas ses habitudes d'attendre quasiment la dernière minute du match pour faire ses remplacements. On est en début de compétition. On sait qu'on a des joueurs fragiles. Fait un turnover plus tôt. On sait qu'elle a peut-être rentré des joueurs, je pense à un Barcola par exemple, qui a ce côté farfadet, explosif, qui peut faire des choses sur un match comme ça où on domine sans dominer. Il aurait peut-être pu ramener cette étincelle-là, un peu bouger plus dans la défense et pas forcément lui non plus la mettre à côté, parce qu'on sait, on sent que c'est une équipe qui est en rodage.
Ouais, qui est en rodage.
C'était
encore
mieux niveau défense, j'ai trouvé quand même.
Mais en même temps, c'est pas non plus l'Autriche, c'est pas l'un des plus grands concurrents.
Offensivement parlant, c'est vrai qu'ils ont pas non plus des armes incroyables. C'est vrai qu'au milieu de terrain, ils ont des bons percées, très bons joueurs.
Quand ils ont fait des percées, par contre.
Oui, mais ça s'est toujours géré. Quand tu vas avoir des vrais attaquants, bah, par exemple, contre le Pays-Bas, je pense que ces percées, elles vont être moins faciles à gérer pour les Bleus.
Ah, c'est vrai qu'en face, vendredi, on en parlera dans quelques instants avec les Depay, les Weghorst qui ont, et d'autres joueurs, bien évidemment. On peut en citer d'autres avec Xavi Simons aussi. Faustin, le match d'hier, tu l'as regardé ou t'avais encore révisé pour la philo?
Non, je me suis permis une petite pause et je l'ai regardé, mais on en ressort frustré, je pense. Notamment aussi le jeu des Autrichiens à toujours faire des fautes, casser notre rythme, nous augmente ce sentiment. Et ouais, clairement, on a manqué de réalisme devant le but. Ça arrive. Heureusement qu'on est chanceux, j'ai envie de dire, sur le but contre son camp.
Ouais.
Même si j'ai l'image en tête là, si le défenseur autrichien il la reprend pas de la tête, derrière il y a Marcus Thuram qui est prêt à allumer le but. Donc c'est pas vraiment un but chanceux, j'ai envie de dire, parce qu'on provoque bien mine de rien. Mais sinon ouais, on sort frustré du match, je pense. On aurait pu miser plus, on aurait pu en mettre plus et faire peur aux autres.
Oui, c'est vrai que on va forcément en parler après la pause musicale du reste de la compétition et des concurrents français pour la victoire finale. C'est vrai que certains ont envoyé des messages assez clairs pour le reste de la compétition. C'est vrai que la France hier, en ne gagnant que 1-0, ce manque de finition hier a été fatal en fait à la France qui se fait peur sur 2-3 actions quand même au final. Le gardien autrichien a déclaré après le match. Les Français étaient assez contents du coup de sifflet final parce que ils auraient pu à un moment donné avoir craquer, hein, vraiment.
J'ai envie de dire que les Français, c'est comme si ils se contentaient de cette victoire à 1-0 et ils ont pas, je sais pas, ils avaient pas cette niaque de marquer plus de buts. Par exemple, je vois une image où il y a Koundé qui se retrouve seul face au but. Il y avait des défenseurs, mais une frappe qui revient où il est tout seul à 10 mètres des cages et il met une petite frappe dans le défenseur alors que je pense que on est en demi-finale de l'Euro, il allume le but quoi. Donc je sais pas, je suis toujours un peu sur la défensive quant à cette efficacité des Bleus et j'espère que ça va s'améliorer.
Bon, l'événement aussi hier soir, c'est pas forcément ce but contre son camp de Vauber, mais c'est la blessure donc de Mbappé suite à, attention, c'est pas un acte volontaire de la part de Kevin Danso, le défenseur lensois.
Un des seuls. En tant que supporter.
Exactement, c'est ça, mais.
Donc, mais, il s'est excusé depuis.
Il s'est excusé depuis en plus sur les réseaux sociaux.
Il y peut rien.
Il y peut rien, donc c'est vraiment un duel de la tête, l'épaule de Danso pour les auditeurs, pour qui n'avaient pas vu cette action, donc va vers le nez de Mbappé. Fracture donc du nez pour lui. La FFF l'annonce incertain, d'autres l'annoncent forfait. Bon, il y a de grandes chances qu'il ne joue pas vendredi soir. Est-ce qu'il faut être inquiet de l'absence de Mbappé vendredi soir face aux Pays-Bas?
Non.
Non, Cédric?
Non. Moi, je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel sur ce match-là. Donc, il est remplaçable. De toute façon, on a joué des fois sans lui. Et même avec lui, mais où il était en mode fantôme, donc en soi, tu peux le remplacer très facilement par un Giroud qui a du métier.
Ah, pas d'accord, Clément.
Ouais, je suis assez mitigé parce que Mbappé, malgré tout, c'est Mbappé. Il aura toujours, il attirera toujours des défenseurs. Ça a pas le même impact qu'un Barcola, même si c'est des joueurs qui ont peut-être pratiquement autant de talent sur le papier, ça a pas le même impact et je pense que ça va jouer dans les têtes aussi. Se dire on n'a pas Mbappé qui est capable de mettre un but à tout moment et pour les Pays-Bas de se dire on n'a pas à défendre sur un Mbappé qui peut être ultra dangereux, je pense que ça peut jouer dans les têtes aussi. Peut-être que sur le papier on a largement les capacités de couvrir cette blessure d'Mbappé. Mais je pense que mentalement, les Pays-Bas doivent être soulagés de ce poids qu'est Mbappé, je pense.
Qu'il n'est pas Mbappé. Ah, Cédric, c'est une réponse ou pas? Avant, je donne la parole à Faustin.
Non, mais après, enfin, les Pays-Bas, oui, forcément, eux, ça va les soulager, mais nous, on n'a pas été impactés. Enfin, tu peux le perdre sur n'importe quoi. Enfin, quand tu vois qu'il est en dernière Coupe d'Europe, et t'es pas forcément dedans tous les matchs. Et si on enlève le match contre la Suisse et puis les pénaux, le taf, c'était pas forcément lui qui le faisait, hein, de finition. Mmh. Donc, on sait jouer sans, et il va falloir juste s'adapter, et ça va. Puis avec ce format en plus de Coupe d'Europe, avec les quatre meilleurs troisièmes qui sont qualifiés.
Oui, bien sûr.
Si on commence à s'inquiéter là, j'ai envie de dire, bah, autant qu'on rentre chez nous, quoi. Enfin.
Oui, la distance n'est pas très loin, en plus.
C'est ça,
à côté, donc ça va. Faustin, blessure de Mbappé, inquiet ou pas?
Non, la France est censée savoir faire sans, quand même. J'imagine que c'est un plan qui a été envisagé dans les pires scénarios, mais il faut toujours se méfier de la perte de son meilleur joueur, j'ai envie de dire, parce que ça peut, justement, dans les têtes, ça peut perturber. Parce que si Deschamps l'avait annoncé, vouloir jouer autour de Mbappé, ça va changer pas mal de choses, va vouloir s'adapter. C'est des professionnels, ils savent le faire, mais il faudra peut-être justement ce temps d'adaptation au début du match où il faudra pas se faire surprendre.
Ouais.
Il y a juste ce petit point qui est... Enfin, faut expliquer le fait de match, en fait, qu'il y a ça. C'est au moment où il se fait bien... Qui est bien en sang, tout ça. Il est sorti une première fois.
Ouais.
Il y a un changement qui doit se faire. Là, faudra que l'arbitre nous explique ce qu'il a eu dans sa tête. Et même le quatrième arbitre, parce que... Il y a un changement pour l'Autriche de valider.
Ouais.
Et on a nos deux joueurs qui sont en attente. Normal qu'il y ait un décalage. Et lui, il relance le match. Du coup, Mbappé, on va dire un peu, peut-être par des consignes peut-être de Deschamps. Ou
même un peu sonné aussi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Peut-être de lui-même, voilà. Il rentre sur le terrain, et on voit qu'il essaye de repartir, mais il se pose direct. Forcément, l'arbitre, ce qu'il fait, c'est qu'il arrête le match.
Il met jaune.
Et derrière, il met un jaune. Ah, en soi, le jaune...
Ça, c'est dans les règles.
Sur les règles, je suis d'accord.
Mais oui, mais c'est bizarre quand même.
Après, t'as l'interprétation. Est-ce que, voilà, ce jaune-là, moi, je pense qu'il est... On peut s'en passer. Et c'est surtout, voilà, du coup, en admettant qu'il joue pas le prochain match.
Il y a de grandes chances qu'il joue pas vendredi soir.
Normalement, c'est quasiment acté d'après, il y a ce qu'il y avait une heure, en tout cas encore. Lui, par contre, il va avoir ce carton jaune sur le dernier match. Et là, ça peut être plus embêtant.
Oui, pour un possible huitième.
Pour un possible huitième,
ouais. Ouais, exactement. Ouais, t'as bien raison. Par contre, j'ai vu ici et là un peu des comparaisons aussi avec un événement qui s'est passé il y a quelques mois. Je sais que tu
suis de Metz.
Non, mais pas forcément.
J'ai vu aussi beaucoup par rapport au penalty, de la main.
Non, c'était même pas par rapport au football. C'est surtout en fait de comparer en fait ce qui s'est passé hier avec la blessure de Mbappé et cette fracture du nez dans une compétition majeure à celle de Dupont avec le rugby et cette fracture de la pommette.
Je me suis fait la même remarque.
Et tu vois, donc Dupont a réagi aujourd'hui un peu sur le ton de l'humour par rapport à Mbappé. Et on avait vu aussi l'importance de Dupont. Est-ce que toi qui suis aussi beaucoup le rugby, Cédric, est-ce que ça t'a rappelé ça ou alors il faut pas du tout y penser?
Disons que je veux dire, au rugby, ils ont l'habitude de se retrouver plus facilement ensemble, mais oui, en termes d'impact que ça peut avoir sur une équipe, effectivement, on peut y penser.
Ouais.
Je pense que la perte de Dupont était peut-être plus grave pour cette équipe-là que quand soit Mbappé. Surtout que là, c'est on le perd avec grand maximum deux matchs.
Ouais, voilà, c'est ça.
Après, il va jouer avec son masque, sachant qu'il va retoucher du ballon, peut-être même dès cette semaine, une fois que le masque va être fait. Forcément, oui, il sera moins impactant que s'il avait pas eu cette blessure-là, c'est sûr. Je pense que même quand tu t'habitues au masque, ça ne va pas être évident de...
On parle de soucis de respiration.
De respiration, je pense que le champ de vision aussi doit être un petit peu légèrement modifié. Mais voilà, en soi, je pense que ça va passer. Et oui, pour le rugby, c'était plus impactant parce que là, oui, effectivement, il y avait tout ce qui allait avec, tout ce qui représentait, tout ce qu'il apportait aussi.
Bon, voilà, ça c'était la blessure de Mbappé. Pour finir sur cette rencontre entre donc Autriche et France, 1-0. Pour vous, quel est l'homme du match de cette partie, Clément?
N'Golo Kanté. De toute façon, c'est lui qui a été l'homme du match. Mais encore une fois, j'ai vu aucun de ces matchs cette année, hormis l'équipe hormis en équipe de France. Et bah, t'as l'impression qu'il a encore progressé et bah, il a fait beaucoup de bien, je trouve, au milieu de terrain, notamment pour contrer les offensives un petit peu autrichiennes. Et franchement, ouais, N'Golo Kanté qui revient à son niveau comme ça, c'est
même pour
c'est
la
super.
Défense.
Ouais, ouais,
bah, pour la défense, il était présent.
Faustin, c'est qui ton ami match, toi?
Bah, j'aurais dit Kanté aussi.
Kanté aussi, Cédric?
Ouais, je suis pas choqué qu'il
ait le titre.
Oui, on est sûr.
Même en attaque, il a apporté, il a essayé des petits dribbles.
Autant on pouvait avoir des doutes sur son niveau avec les matchs de préparation où ça n'a pas forcément été exceptionnel, mais là c'est vrai qu'il s'est, il a su s'imposer à son poste, à diriger un peu cette défense, je trouvais.
Et je pense qu'il va faire du bien
aussi.
Il va faire du bien au milieu de terrain, c'est vrai, on verra la composition que Deschamps apportera vendredi soir face aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre?
Valider les huitièmes de finale, à mon avis.
Si tu prends au moins un point, c'est bon, on va dire.
Ouais, et même gagner quand même envoyer un message. On a battu les Pays-Bas, c'est quand même pas n'importe quelle nation, les Pays-Bas. Et oui, ça rassurerait dans les têtes aussi, je pense, un peu tout le monde. Et puis faut gagner.
Ouais, faut gagner. J'ai envie de dire, faut surtout pas perdre, parce que c'est perdre qui nous mettrait dedans plus que.
Parce que face à la Pologne derrière, ça sera compliqué.
Bah voilà, et même par rapport aux autres équipes qui pourront nous appréhender avec plus de facilité, et un peu peut-être nous sous-estimer, mais ce sera plus facile pour eux.
Ouais, tu rejoins un peu Clément sur le fait d'envoyer un message dès vendredi soir. Tout à fait. Cédric.
Plus d'efforts sur les retours pour en défense. Faut pas que ce soit tout le temps les mêmes joueurs. Hier, je trouve que Thuram, il a fait un taf de fou là-dessus. À faire ses allers-retours pour aller en attaque, aller défendre. Forcément, derrière, je peux comprendre qu'il n'y ait pas un gros rendement de buteur, mais quand tu fais des allers-retours comme ça, et que tu sers bien en termes de défense, voilà. Ah, hier soir, ils sauvent quand même
l'occasion. Après, c'est aussi leur métier. Les mecs, faut qu'ils sachent enchaîner les courses pour...
Mais dans ce cas-là, faut pas dire que... qu'il a été mauvais. Enfin, tu regardes, c'est en gros, on lui reproche d'avoir fait ça. Il fait son taf, et dans ces cas-là, je te dis, c'est pour ça. Il faut que l'ensemble de l'attaque fasse ça aussi, parce que ça soulagera tous les joueurs. Au moins toute la partie attaque, et voilà, quoi.
Ouais.
Bon, on va se quitter, on va faire une petite pause musicale avant d'entamer le reste de la compétition de l'Euro 2024. On va écouter tranquillement ensemble sur Radio G, que vous soyez donc du côté de Longnay en Anjou, de Saint-Melaine-sur-Aubance ou de partout dans le Maine-et-Loire, n'hésitez pas à écouter Radio G sur le 101.5. On va s'écouter État d'âme de Do sur Radio G.
Ma vision est troublée, je suis pas démarré. Beaucoup trop de fissures que je peux pas réparer, c'est la vie. Ouais, à ce qui paraît, plus la mission est grande, plus l'âme se tarit. Si tu te concentres pas, tu peux finir taré. C'est fou. Comment faire pour sortir de cet enfer? Faut tenir debout. Merde, je suis perdu dans mon réseau. Mon cœur vient de perdre la raison. On s'assume avec amour, mais pas pour les mêmes raisons. C'est triste, oui, beaucoup trop tôt dans le caisson. Merde, pour être réaliste, j'ai très peu d'amis, que des potentiels ennemis. Je me sens mieux loin des autres. J'essaie de sortir hors de l'eau. Je me sens mieux loin des autres. J'essaie de sortir hors de l'eau. Moi j'essaie. Le cœur dans la poche, mes rimes dans ma pochette. L'amour pour mes proches,
La peau dans ma chaussette, je suis libre dans ma tête, mais mon corps sature. Dans ma bulle, je recherche ma recette. Il faut frapper fort, plus le temps pour la causette. Hey, hey. Je veux le miel et la paix. L'ambition, la vision, la mission, l'évasion, j'y pense puis la veille. J'en ai fini la taille. J'attends plus que la paye. Yeah. Giro daron que ça y est, que je régale mes alliés. Oh, ouais. Ça me voit dans la vie et me demande c'est comment. Je leur réponds simplement que tout prend son temps. La vérité c'est que je veux être seul l'espace d'un instant. Juste l'espace d'un instant. Oh. Je me sens mieux loin des autres. J'essaie de sortir hors de l'eau. Ouais, j'essaie.
État d'âme de dos sur le 101.5 sur Radio G. Nous sommes dans Génération Sport. Il nous reste encore une bonne demi-heure d'émission pour évoquer ensemble la suite de cet Euro 2024. On évoquait Autriche-France il y a quelques instants. On va évoquer maintenant le reste des favoris, le reste des gros, on va dire, des personnes, des sélections qui ont su montrer un peu leur force et leur qualité. Ça a commencé dès vendredi soir, forcément, avec le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse, et cette victoire terrible, tu le disais tout à l'heure Cédric, des Allemands face aux Écossais qui ont plombé le moral du coup à Glasgow là. 5-1 les Allemands. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui voudrait revenir sur ce match d'ouverture?
Ah bah la Dutch quality là, c'est, on l'a vu direct, hein, ouais. C'est, moi je les avais annoncés dans mes favoris.
Ouais.
Bah, je confirme. S'ils continuent comme ça,
J'ai pas pu voir le match parce que bah j'avais match du coup. Ah ouais. Mais je pense que oui, ils ont envoyé un message à tout le monde. Après, les Écossais, ça semblait quand même très faible. Et puis le carton rouge, ça les a un peu plombés aussi.
Ouais.
Mais oui, ils ont envoyé un message à tout le monde. Hâte de voir leur deuxième match pour voir s'ils valident ce fait que bah ils soient au-dessus, enfin ils soient dans les favoris de cette compétition à la maison. En plus, je pense que ça peut jouer.
Et demain, le prochain match pour les Allemands contre la Hongrie à 18h.
Oui, en plus la Hongrie qui peut être une surprise. Donc à voir. J'ai hâte de voir ce match.
Les Espagnols, eux, samedi, ont battu 3-0 la Croatie. Pareil. Est-ce que l'un de vous veut réagir sur ce match des Espagnols, Faustin?
C'est un score assez sévère pour la Croatie. J'ai pas pu voir le match en entier, mais. Mais le 3-0 est vraiment sévère. Hein. Ils ont pas tant que ça d'occasion, les Espagnols, et les Croates en ont.
Ils ont bien vendangé les Croates.
Hein. Ouais. Et puis là, c'est quand même le groupe de la mort. Hein. Le groupe B, oui. C'est Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Je peux vous dire que ça va être, à chaque match, ça va être terrible, ouais. Et ça va être intéressant à voir.
Ouais. Et on a vu un Fabian Ruiz très très enjambé.
Exactement.
Oh là, je pense qu'il nous a sorti.
Les supporters parisiens étaient aux anges. Ouais. Je pense samedi après-midi là, enfin en fin d'après-midi, début de soirée.
C'était quelque chose. Hein.
Est-ce qu'ils étaient aux anges ou est-ce qu'ils se demandaient pourquoi il nous fait passer à Paris?
Je pense aussi.
C'est vrai. Heureusement, Carlos Soler n'est pas en sélection parce que je pense qu'il aurait régalé aussi. L'Italie, tenante du titre. Donc elle, samedi soir, s'est imposée 2-1 face à l'Albanie. C'est mon favori de la compétition. L'Italie.
On a vu ça sur mon petit prono.
Sur mon petit prono, exactement. On n'est pas beaucoup à avoir mis l'Italie en favori sur mon petit prono. J'en connais que deux. Hein, donc ma femme et moi. Donc donc voilà, c'est pas compliqué de voir l'Italie gagnante en tout cas. 2-1 avec un but, le but le plus rapide de la compétition, les Albanais au bout de 25 secondes.
J'étais choqué.
Pour l'instant, voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes étaient surpris de ce but, mais ils ont su revenir.
Là, on avance au stade.
Ils ont rien fait d'autre.
Exactement.
C'était pas très intéressant du côté de l'Albanie qui a pas proposé grand chose.
Ouais, on s'attendait à mieux, je pense de voir un peu les Albanais peut-être inquiéter un peu plus les Italiens.
Et là, c'était vraiment faible. Hein.
Mais du coup, ça va se jouer entre trois équipes. Ça peut peut-être rassurer les Croates.
Oui, je pense.
De voir l'Albanie, du coup, être un peu plus poussive dans cette compétition.
Ouais, on va chercher la troisième place.
Exactement.
Albanie, pour l'instant, troisième.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Ils auront ce petit félin pour l'instant.
Au golavérage.
Au golavérage, ouais, mais on sait jamais, hein, ça peut être justement un piège pour... Au final, c'est peut-être eux qui vont mettre un petit peu le bazar dans ce groupe et, ouais, et finalement déterminer qui passera dans ce groupe. Hein.
Le Albanie-Croatie sera décisif.
Mais je pense que c'est ça. Déjà, oui, et c'est.
Quatre jours, logiquement.
Exactement. C'est vendredi. Non, je dis une bêtise. Non, c'est le Croatie-Albanie, c'est demain. Demain, 15h.
Ah ouais?
Ouais, ça va très très vite, cette compétition.
C'est vrai que ça passe vite.
7 euros. Dimanche, c'était la journée un peu plus décevante pour les favoris, je trouve, parce que bon, bah, les Danois, eux, ont fait un pu partout face à la Slovénie. On s'attendait pas forcément, du coup, à cette performance des Danois. Mais bon, les Slovènes, Matteo les avait annoncés aussi la semaine dernière, comme potentielle surprise de cette compétition. Les Pays-Bas, donc, se sont imposés 2-1 face à la Pologne. Pareil, on s'attendait peut-être à mieux des Pays-Bas, même si, attention, il faudra quand même se méfier vendredi soir. Mais la grosse déception, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est l'Angleterre. Ouais. Dimanche soir, 1-0. Le strict minimum, le minimum syndical. Ouais. Avec ce but de Bellingham. Ah, et puis après, plus rien.
Un peu comme la France. Ouais. Enfin, peut-être encore moins bien que la France.
Il y a eu beaucoup de comparatifs avec ce match-là, du coup.
Un match de rodage aussi peut-être pour l'Angleterre et ils vont peut-être réussir aussi à rebondir là-dessus au prochain match et envoyer vraiment un signal pour la suite de cette compétition au prochain match.
Est-ce que les Anglais prennent pas un peu la compétition un peu à, je vais pas dire à la légère mais un peu tranquillement, voilà, tu dis rodage mais un peu tranquillement.
Oui, c'est vrai.
Ouais, moi je suis un peu d'accord parce que c'est tous des grandes stars de Premier League ou de Bundesliga pour Harry Kane
ou de Liga aussi avec Bellingham.
Ouais, voilà, et peut-être qu'ils, j'ai sorti une expression pas ouf mais ils se prennent pour des joueurs vraiment de très grandes
Se prennent pour des cadors, tu veux dire.
Voilà, c'est voilà. Ça. Alors que ils jouent pas en groupe et c'est ce qui pêche et on les a sentis pas forcément en confiance du coup.
Même quand tu entends des avis pour quoi. Sur les matchs de préparation et même sur la façon que l'équipe elle a été composée, même l'entraîneur lui-même il est en mode ouais bah, si ça se trouve de toute façon après ça je vais sauter. Je sais pas, quand tu vas pour une compétition, au moins pour le coach,
oui, vas-y quoi.
Le coach, tu vas pas te dire oh, de toute façon ouais je vais peut-être sauter dans tous les cas.
C'est Southgate le coach.
Je sais pas, c'est étonnant quoi. Soit tu dis bon, ok, on a une équipe qui fait pas rêver, mais on va donner le maximum. Ça peut se comprendre de la part d'un coach.
Bien sûr.
Mais là, d'avoir des réactions un peu comme ça en disant, ouais, c'est peut-être mes dernières. Mais avec eux, enfin, et même au sein de l'équipe, il y a l'air d'avoir des petites tensions aussi sur des joueurs qui n'ont pas été pris, alors qu'ils auraient pu. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Parce que je trouve que sur le papier, cette équipe, c'est l'une des meilleures de l'Euro, surtout en attaque. Mmh. L'attaque qu'ils ont, ils sont obligés de refuser des Sancho, des Rashford en sélection.
Ouais.
C'est quelque chose qui est rare et j'espère qu'ils vont pas regretter tout ça et rater cette compétition.
Ça serait, après c'est l'éternel problème des Anglais, c'est que depuis 66 du coup ils ont rien gagné. Ouais. Donc après depuis la Coupe
et
du Monde
et encore 66, il y a ce petit coup de chance hein, qui aide.
Oui bien sûr.
Donc là, même ça, ils ont même plus les coups de chance. Il y en a beaucoup qui comparent un peu cette génération de joueurs anglais aussi à la Belgique, avec sa génération dorée qui, à chaque fois, se rapproche du but ultime et finalement, il n'aura rien décroché. Quoi.
Et la Belgique, on va en parler dans quelques instants, la Belgique. Juste pour dire que les Anglais, eux, de toute façon, ils sont un peu comme la France. Ils vont avoir un gros test. Donc eux, ce sera pour jeudi 18h, c'est Danemark-Angleterre. Pour celles et ceux qui veulent voir ce match après les cours ou alors tranquillement après une épreuve de bac, je sais pas, non Faustin, t'as pas d'épreuve jeudi, c'est bon?
Si jeudi je passe la géopolitique.
Après la géopolitique, Danemark-Angleterre pour toi à 18h.
Nickel.
La Belgique, on va l'évoquer forcément parce que c'est aussi une déception. C'était hier, le même jour que la France du coup.
Ouais.
Mais à 18h, cette défaite 1-0 face à la Slovaquie. Assez incroyable de voir les Belges s'incliner dès l'entame de cette compétition.
Ouais, mon petit prono, ça a fait mal. Je voulais mettre Slovaquie, j'ai changé.
Pour la surprise.
Et du coup, j'étais dégoûté après. Ouais. Mais bon, nos amis belges qui perdent, Je suis pas triste. ça me rend pas triste.
Il y a clairement une scission avec les Belges depuis la Coupe du Monde 2018.
Oui, c'est sûr. Mais
on est écouté en Belgique, je me rappelle.
J'espère pour eux que ils vont réussir à quand même passer ces phases de poule et se ressaisir. Mais bon, moi ça me je vais pas dire que ça me réjouit, mais ça me fait ni chaud ni froid, on va dire.
Ça te fait ni chaud ni froid. Cédric, est-ce que tu veux réagir sur la Belgique ou
ce qui me dérange un peu, c'est les deux buts refusés.
Oui.
Autant le premier, bon, je sais pas trop. Sur le deuxième, je trouve que
c'est un peu dur.
C'est un peu dur de le refuser, surtout qu'on a cette magnifique nouvelle technologie du ballon dit intelligent, que si tu tapes par inadvertance avec la main, ça va émettre une fréquence et l'arbitre peut le voir. Et là, donc sur le deuxième but, il est refusé parce qu'il y a une main qui est sifflée du coup. Mmh. Alors, et quand on prend l'action complète et qu'on l'analyse, on voit bien que c'est pas une main volontaire. Ils sont au corps à corps, ils sont en train de se défendre. Forcément, il part un peu plus en avant et dans son avancée, en fait, la main part. Sauf que comme tout joueur, tu vas pas t'attacher les mains dans le dos quand tu vas faire tes mouvements.
Ce serait intéressant un jour d'inviter dans l'émission peut-être quelqu'un qui s'occupe de ça, en fait, des gestes ou peut-être de saut, même, tu vois, dans l'athlétisme, savoir comment tu sautes, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué tu vois, même au basket, de savoir aussi de comprendre les sauts et c'est vrai que pour un footballeur, c'est assez rare, tu sautes toujours les mains sur le côté pour donner une sorte d'impulsion. Et c'est vrai que dans le foot, c'est toujours un peu
les mains derrière dans le dos sont de plus en plus présentes chez les défenseurs, mais ça n'empêche pas les mains quand même.
Mais le saut pour sauter, c'est impossible.
Les mains dites involontaires, elles sont quasiment plus reconnues maintenant.
Mais c'est dur de faire des règles là-dessus, c'est ça le problème. Parce qu'il y a tellement de cas possibles que...
Ouais, mais là tu le vois clairement avec la VAR, avec... OK, il y a bien la main qui va toucher, tu vois, ça.
Ouais, bien sûr.
Ça, on va pas le nier. Tu vois clairement qu'il n'y a pas attention, il est en plein duel.
Ouais. Il y a différents points de vue aussi, bon. C'est ça qui pose problème, je pense.
On va sans doute en voir d'autres dans la compétition.
Oui, c'est sûr.
On est habitué de toute façon aux erreurs d'arbitrage flagrantes dans les Euros et dans les Coupes du Monde.
Exactement. Pour terminer cette première journée de phase de groupe, la Turquie s'est imposée aujourd'hui 3-1 face à la Géorgie, c'était cet après-midi.
C'était sympa le match de waterpolo.
Exactement, il a vraiment énormément plu du côté de Dortmund, avec des buts de Muldur, Guler, Akturkoglu et pour la Turquie, et Mikotadze, un joueur de L1 qui a marqué donc ce but pour la Géorgie. Ce soir, dernier match de la première journée avec le Portugal qui affronte la République tchèque. Je vais quand même vous donner le programme des grosses rencontres pour cette J2 avant la semaine prochaine, pour qu'on se retrouve dans l'émission avec donc Alex et Matteo. L'Allemagne joue demain à 18h face à la Hongrie. On peut citer aussi des matchs de jeudi soir, donc avec Danemark-Angleterre à 18h et Espagne-Italie à 21h. Ça, c'est des gros rendez-vous. France-Pays-Bas vendredi soir à 21h et samedi prochain Belgique-Roumanie et Turquie. Portugal, voilà les derniers matchs donc de cette J2 qu'on peut vous annoncer jusqu'à la semaine prochaine, mais après on vous laissera un peu la surprise. La France, elle jouera son dernier match donc mardi soir prochain à 18h. On aura fini le match avant de commencer l'émission. Donc voilà pour ce match donc de France la semaine prochaine face à la Pologne. On finit sur l'Euro 2024. On va quand même passer maintenant au reste de l'actualité sportive, les garçons, avec du rugby. Avec du rugby, du top 14, Clément, on a les demi-finales de top 14 qui ont été, les matchs de play-off qui ont été faits donc ce week-end, et on a les deux demi-finales qui ont été qu'on peut annoncer maintenant à nos auditeurs.
C'est ça, avec La Rochelle face
à Toulouse,
et l'autre demi-finale donc qui opposera Bordeaux.
Et le Stade Français.
Le Bordeaux et le Stade Français, c'est ça.
Exactement.
Oui, j'ai suivi de loin ces deux matchs de play-off. Mmh. La Rochelle qui a eu chaud quand même, qui s'est fait un peu peur. Et après Bordeaux qui aussi mais mine de rien s'est fait peur. Donc on a deux équipes qui sont pas forcément qui sont en confiance mais qui ont, je pense, contre Toulouse, ça va être très compliqué pour La Rochelle. Et Bordeaux Racing, je pense que ça peut jouer, même si peut-être que Bordeaux part un peu avec un déficit, puisqu'ils ont eu un match en plus, et que ils ne sont pas forcément mis en confiance sur ce match ce week-end.
Ça fait deux belles affiches, Cédric. En tout cas, pour les demi-finales de championnat de France.
Ouais. C'est une demi qui est limite une finale, de toute façon. Voilà. Ça, ouais. Clairement.
La promotion du rugby en France, elle est incroyable, hein. On peut le dire, hein. Avec ces quatre équipes, là, qui, avec le Stade français qui revient sur le devant de la scène après quelques années.
C'est ça, pour ça, c'est. Voilà, ça fait toujours. Je pense que pour Bordeaux, ça va être dur, hein, quand même.
Ouais.
Stade français, on l'a été beaucoup à les en tirer, sur les dernières années, hein. C'était compliqué, hein. Ils ont eu leur période de gloire, ils se sont effondrés. Mais de belle manière, j'ai envie de dire, dans l'effondrement, parce que bon, on connaît tous les clubs, hein, qui ont eu des titres. Toulouse est le premier, hein, avoir des périodes où ils ont dominé et après où ça a été plus calme, ils étaient toujours là, au moins dans les quatre derniers.
Ouais.
Je pense aussi à Toulon, pendant longtemps aussi, voilà, qui dominait, qui tout ça. Et là, c'est vrai que ça les fait revivre. Donc je serais pas surpris, ouais, une petite finale. Stade français Toulouse un peu à l'ancienne.
Bon, Toulouse est quand même nettement
ultra favori avec deux équipes, ils peuvent aligner deux équipes dans avec leur effectif, donc il y a rien à dire là-dessus. C'est vrai qu'on beaucoup de personnes voient Toulouse en tout cas gagner le top 14 à la fin de l'année.
Ce sera un exploit
et réaliser le doublé en plus.
Ouais.
Avec la Coupe d'Europe. Et c'est toujours intéressant aussi à dire, hein, que dans l'ouest de la France, je sais plus si on l'a signalé la semaine dernière, mais Vannes accède au top 14 l'année prochaine.
Oui.
Donc du coup ça va amener aussi du rugby dans l'ouest de la France, de voir des grosses nations, enfin des grosses équipes du top 14 venir dans l'ouest de la France et venir à Vannes disputer le
championnat. Bah il y a La Rochelle déjà.
Championnat. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là vraiment en Bretagne quoi. Vraiment en Bretagne.
C'est bien, on a deux villes quasiment autant de temps pour aller voir les matchs.
Voilà. Ouais.
Bon. On aura peut-être match de préparation à Angers, hein.
Ah oui, c'est possible.
Peut-être.
L'année dernière avec le La Coupe du Monde avait déporté La Rochelle sur Angers.
Ouais.
S'ils veulent revenir, c'est avec plaisir, j'ai envie de dire, si on peut voir une affiche comme ça.
On croise les doigts, en tout cas. On croise les doigts. On va partir maintenant, pas du côté de la Bretagne, on va poursuivre. Vraiment, on va traverser l'Atlantique avec Faustin, parce que, cette nuit, il s'est passé un événement en NBA. La NBA a délivré son champion, quoi.
Bah ouais, parce que je vais revenir plutôt dans la chronologie de cette finale NBA, parce que au terme du troisième match, Boston mène 3-0, et pour rappel, aucune équipe n'a remonté un 3-0 en NBA, mais l'espoir persiste quand Dallas remporte le match 4 assez largement, le match 5 fut sans appel et poussé par un grand duo Tatum-Brown. Ce sont les Celtics qui remportent le 18e titre de leur histoire et deviennent ainsi la franchise la plus titrée de NBA, dépassant de un titre les Lakers de Los Angeles. Ils ont un titre qui est largement mérité pour leur domination tout au long de la saison régulière. Même chose en play-off, ils ont perdu que 3 matchs durant cette campagne de play-off, c'est complètement fou, je sais pas c'est depuis quand c'est pas arrivé, mais voilà, avec un sweep en finale de conférence. On peut dire que la conférence Est est moins forte, néanmoins aucune autre équipe à mon avis aurait pu faire le taf à ce point, c'est vraiment amplement mérité. Jaylen Brown finit MVP des finales comme il l'a été en finale de conférence, c'est là aussi complètement mérité, il a su mener son équipe à la victoire à chaque match. Il a un impact évidemment énorme offensivement. On l'a par exemple vu sortir un énorme dunk où il passe toute l'équipe de Dallas et finit par le claquer au-dessus de la tête de Daniel Gafford. Ou bien défensivement, où il fait régulièrement des grands flashs qui poussent son équipe vers une excellente dynamique. Une équipe aussi excellemment bien coachée par Joe Mazzulla, qui a su, du haut de ses 35 ans seulement, mener ce groupe bien construit vers la victoire.
Est-ce que tu penses, j'ai une question à te poser, Faustin, toi qui suis un peu la NBA, est-ce que tu penses qu'ils ont fait exprès de perdre à Dallas pour essayer de gagner le titre à domicile à Boston?
C'est ce que je me suis demandé aussi, honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'ils ont fait exprès.
Ça donne la pression quand même.
Ouais, qu'ils
prennent le bouillon 40 points à l'extérieur.
Voilà, c'est ça.
Et qu'ils en mettent quasiment 40 à domicile là contre Dallas dans le match 5.
Je me dis que il y a un truc louche, il y a Anguille sous roche.
Est-ce que c'était la même équipe que d'habitude?
La fête est... la même.
Il manquait Christophe qui était blessé. Parce qu'il était vraiment blessé, donc je pense qu'ils ont fait exprès. Ils ont dit, on leur laisse un match s'ils veulent, hein, ils leur donnent les miettes et après, on va finir le taf chez nous, on fait la fête comme ça.
Je pense que ça joue.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir à voir de voir Boston remporter son 18e titre et passer devant les Lakers dans l'histoire. Non, mais c'est vrai. Non, mais après, je suis pas forcément fan ni des Celtics ni des Lakers, mais Mais voilà, historiquement parlant, aux États-Unis, c'est vrai que c'est un vrai duel entre ces deux équipes, entre les Celtics et les Lakers. On va pas essayer de ramener cette rivalité pour la comparer à quelque chose dans le football ou quoi que ce soit. Elle est vraiment à part cette. Non, mais pour donner un peu un ordre d'idée aux gens, pour ceux qui suivent pas forcément la NBA, c'est vrai que pour faire très 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 simple, on pourrait dire que c'est entre comme si c'était Paris et Marseille dans le foot, mais c'est vraiment ou Real Barça. Ouais. Real Barça, ouais, c'est mieux. Real Barça, c'est mieux. Donc voilà, mais c'est vrai que cette rivalité à distance entre Boston et Los Angeles, c'est quand même quelque chose.
Tu la retrouves, mais qu'au football américain que j'en.
Oui, voilà.
C'est plus là où tu vas voir l'équivalent avec les 49ers.
Bon, maintenant.
Les New Patriots, ouais, voilà, une
les,
époque.
Les Patriots, ouais, exactement. Mais ouais. C'est vrai que c'est. Donc la saison de NBA est terminée officiellement. Ouais. Enfin, elle sera vraiment terminée avec la draft NBA la semaine prochaine. Parce qu'on a deux Français, hein, donc on pourra.
Trois
Français avec. Bah oui, avec. Excuse-moi, avec Tidiane Salahoun, bien sûr. Évidemment, mais avec Alexandre Ossard et Zachary Rizaché, qui peuvent être, en tout cas, aux deux premières places de la draft. On verra ça la semaine prochaine. Mais du coup, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, il me semble, de mémoire.
Ouais,
c'est le 26.
C'est ça. Ouais.
Donc, on pourra en parler dans 15 jours de cette draft NBA dans Génération Sport. On va évoquer aussi maintenant les 24 heures du Mans. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont suivi un peu les 24 heures du Mans? Cédric, est-ce que tu as pu suivre un peu ça de loin?
Toujours compliqué de suivre bien les 24 heures du Mans, même si on arrive maintenant à l'avoir gratuitement.
Oui, c'est vrai.
Il faut vraiment améliorer, je trouve, c'est notamment, enfin, l'aspect nocturne, voilà, il y avait pas 36 000 solutions, hein, pour regarder, c'était soit sur les chaînes d'Eurosport.
Soit sur l'équipe.
Donc, c'est dommage, à une époque, c'était le service public, il y avait quand même plus de diffusion. Alors, je comprends, c'est 24 heures, c'est pas évident à diffuser, mais qu'on aille un beau départ, qu'on ait un quart d'heure de course et derrière de se taper de la pub pendant 5 minutes, avoir 10 minutes de course, de la pub, je trouve ça un peu irrespectueux vis-à-vis de l'épreuve et même vis-à-vis des spectateurs. Alors, il y a eu des faits de course qui ont fait que c'était plus compliqué aussi de diffuser des images, effectivement. Il y a eu tout un rail à changer, donc ça a pris du temps. En plus, c'était de nuit. Mais la nuit, c'était, enfin, il y a une ambiance aussi, je trouve ça bien qu'on puisse suivre à n'importe quelle heure. Et là, c'est vrai qu'il m'a manqué ce petit côté-là.
Qui t'a manqué pour suivre correctement,
les
24 heures du Mans. Victoire de Ferrari, d'ailleurs. Victoire de Ferrari pour une deuxième fois consécutive.
Ils ont juste inversé les voitures cette fois-ci.
Derrière Toyota. Enfin, derrière le deuxième, c'est Toyota. Et troisième, de nouveau Ferrari. Donc, aux places 1 et 3, l'Italie, le sport italien en ce moment est vraiment sur le toit de l'Europe. Parce que bon, on parlait des championnats d'Europe tout à l'heure, l'athlétisme, les Italiens ont vraiment cartonné.
À domicile aussi, ça aide souvent.
À Rome, bien évidemment. D'ailleurs, je conseille à nos auditeurs d'aller regarder un peu le saut en hauteur avec Tamberi là,
le show qu'il nous a fait,
c'était incroyable. Yannick Sinner, en parlant d'italien, lui au tennis s'est imposé aujourd'hui pour son premier match en tant que numéro 1 mondial au tournoi de Halle. La saison sur herbe a commencé avant un Wimbledon dans 15 jours maintenant, quasiment. Wimbledon qui est un peu avancé en fonction aussi des Jeux Olympiques. En parlant de tennis, Novak Djokovic aujourd'hui a déclaré qu'il allait jouer
normalement,
disputer les Jeux Olympiques après sa blessure et son opération. Donc on verra ce que ça donnera, en tout cas au JO avec Djoko sur terre battue. Je pense que l'objectif ultime pour lui, c'est de remporter une médaille d'or et d'être champion olympique.
Bah, comme tous. Ouais.
C'est ce qui lui manque à son palmarès en même temps, les garçons.
Oui.
Donc je sais pas s'il y en a un qui veut réagir là-dessus aussi.
Paris, un peu étonnant quand même, au vu de sa blessure.
Ah, oui.
Mais bon, à voir.
Bah, c'est peut-être sa dernière chance aussi.
Oui,
en tout cas, il est sélectionné pour l'instant, ça, c'est sûr. Il y a aussi ça, je pense, qu'à jouer. C'est qu'on doit pas tarder aussi à arriver dans les dernières heures pour faire les compositions d'équipe, tout ça au niveau des JO. Et donc, ils se sont peut-être dit, bon, de toute façon, on a personne d'autre.
Ah,
donc
oui, voilà.
On va quand même le tenter.
quand
parce que ça, son genre de blessure, même en se remettant bien.
Ah, faut voir.
Faut voir. Après, c'est un format différent aussi, cette compétition. C'est en 3-7. Enfin, c'est.
On a évoqué la NBA, on a évoqué la NFL, on va quand même évoquer aussi du golf avec un Français, l'US Open, Mathieu Pavon, cinquième de l'US Open en golf, Bryson DeChambeau a remporté pour la deuxième fois consécutive, enfin pour la deuxième fois l'US Open de golf. Voir un Français dans cette discipline, est-ce que vous pensez, les garçons, que ça peut peut-être procurer peut-être des émotions ou l'envie à des jeunes, même si c'est vrai que là c'est l'US Open, c'est de nuit, mais on est à quelques jours aussi des Jeux Olympiques, il y a le golf au JO, donc
j'y vais.
Tu y vas?
Oui.
Ah, tu pourras nous faire un petit débrief de ça pendant.
J'espère voir Mathieu Pavon du coup briller sur les pelouses, on peut dire ça comme ça, de Paris.
Sur le green,
oui, c'est vrai.
T'as un peu suivi Mathieu Pavon là, l'US Open, c'est vrai qu'il faut en parler, suivi de c'est énorme quand même.
Parce que mon père il suit un peu, mais il était même mieux que cinquième au bout de trois jours. Ouais. Et donc c'est une performance remarquable et ça fait du bien de voir un Français aussi haut dans le golf parce que c'est pas souvent le cas et d'ailleurs même chez les féminines on a je n'ai plus son nom une Française qui qui brille et
qui a remporté des majors en plus c'est honteux de plus avoir le nom mais moi je l'ai plus t'inquiète pas hein, donc on va chercher ça mais c'est vrai que voir Mathieu Pavon avec DeChambeau et McIlroy qui sont quand même de très gros clients dans le golf masculin c'est quand même assez énorme de voir ça.
Il y en a surtout certains qui sont passés à côté de cette US Open. Je pense à Scheffler qui avait roulé sur tout et qui là nous a un peu déçus. Et donc je souhaite pas qu'il rate ces Jeux Olympiques, mais au moins comme ça pour laisser une place à un Français.
Ah, ça serait vraiment dommage ça serait compliqué. De le voir rater cette performance quoi, en tout cas ce serait dommage en tout cas cette émission on va la clôturer ensemble tranquillement. Est-ce que tu as un petit mot quand même sur ce que t'as vu ce week-end? On l'avait dit tout à l'heure en off oui c'est Céline Boutier la golfeuse française qui a remporté des majeurs en plus sur ce que t'as vu. Est-ce que pour nos auditeurs le catch est quand même du sport, il nous reste une minute avant de clôturer l'émission.
On va faire simple. C'était un show à Glasgow,
en Europe.
Donc toujours cool en termes d'horaire, très bien pour les diffusions dans les bars à 19h ou 20h. Enfin, ça permet de proposer autre chose. Moi, ce qui m'a manqué, c'est un peu l'ambiance. Je l'ai trouvé un peu plus faible
qu'à Lyon.
Peut-être que le fait qu'il y avait l'Euro aussi et la défaite va peut-être refroidir un petit peu les ardeurs de nos amis écossais, mais en tout cas une carte pas mauvaise. C'est un show qui se laisse regarder une fois, peut-être deux fois histoire d'eux, mais
pas plus.
Pas plus, ouais. En termes d'histoire, il démarre des choses, donc c'est plutôt cool. Mais c'était plus cette nuit à Roux où là il y avait un gros événement.
Exactement, et ça on en parlera peut-être un jour dans une autre émission. C'est la fin de Génération Sport, on se retrouve la semaine prochaine, vous aurez le loisir de retrouver Alex et Mathéo bien évidemment autour de la table, et on vous souhaite une bonne semaine de sport. Ciao.